Bonsoir. La MONUSCO est en train de fermer certaines de ses bases à travers la RDC. Au Nord Kivu, par exemple, il est prévu la fermeture de celle de Pinga dans le territoire de Walikale, Katale dans le Rutshuru et Munigi dans le Niragongo. Selon la MONUSCO, cette décision répond à sa stratégie qui consiste à concentrer ses forces dans un nombre réduit de bases, cela de façon à projeter rapidement des unités opérationnelles sur l'ensemble du territoire congolais en cas de nécessité. Cette décision suscite des inquiétudes au sein de la population à travers le pays. Comment analyser cette décision de la MONUSCO? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Général-Major Bernard Comines. Bonsoir.
Bonsoir monsieur, bonsoir à tous nos auditeurs.
Vous êtes commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi à travers la RDC et le monde.
Vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu, maître Juvenal Munubo Mubi, bonsoir.
Bonsoir monsieur Alain, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes député national et cadre de l'UNC et aussi rapporteur de la sous-commission Forces armées de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
En RDC, la MONUSCO va procéder à la fermeture de plusieurs de ses bases. Selon la mission onusienne, cette décision répond à sa stratégie qui consiste à concentrer ses forces dans un nombre réduit de bases de façon à projeter rapidement des unités opérationnelles sur l'ensemble du territoire congolais en cas de nécessité. Prenons cette illustration de la province du Nord Kivu où parmi les bases ciblées figure celle de Pinga dans le territoire de Walikale où la population vit en permanence dans l'insécurité. Les détails dans cet entretien entre Christian Mapendano et Kelly Nkoté.
Christian Mapendano, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Vous avez été à Pinga. Que pouvons-nous retenir globalement de cette agglomération sur le plan socio-sécuritaire?
Et tout d'abord, il faut dire que Pinga est une agglomération située à cheval entre quatre groupements. Il s'agit des groupements Ikobo, Ihana et Kisimba dans les territoires de Walikale et du groupement Bacha du Mokoto dans le Masisi à plus ou moins 200 km au nord-ouest de Goma. L'agglomération est entourée de groupes armés très actifs, notamment les NDC de Tcheka, le NDC rénové de Guidon, l'APCLS de Janvier Kanahiri, les FDLR Foka de Sylvestre Mudashumura et les Nyatura. Il s'agit en tout cas d'une zone enclavée sur tous les plans, au point où la population est obligée de s'accoutumer au rythme de vie lui imposé par ces groupes armés.
Mais qu'est-ce qui explique finalement qu'il y ait cette agglutination des groupes armés tout autour de Pinga? N'y a-t-il pas des forces de sécurité gouvernementale dans la région?
La question des groupes armés à Pinga est en tout cas complexe, comme partout ailleurs dans la province. D'abord, la majorité de ces groupes armés sont à caractère tribal et vivent dans la zone depuis plus d'une décennie. Sur place, on trouve quelques éléments de la police, mais des policiers non équipés et parfois sans aucune formation. De même, il y a un régiment des FARDC qui est présent dans la zone, mais une fois de plus, ce seul régiment n'est pas capable de sécuriser toute la région, étant donné qu'il couvre un fond physique très large. Par contre, il faut dire que la peur actuelle de la population de Pinga est liée surtout à la menace de fermeture de la base des casques bleus d'ici quelques mois, tel que annoncé.
Christian, selon vous, quel danger présenterait le retrait de la base de la MONUSCO de Pinga?
Si la MONUSCO se retire, le régiment des FARDC dans la zone a deux choix à faire. Soit partir de certaines zones et réduire son fonds physique pour sécuriser uniquement Pinga Centre, soit garder son fonds physique et sacrifier Pinga Centre au profit des groupes armés, dont certains ne sont qu'à quelques centaines de mètres de l'agglomération. Dans tous les cas, le problème de sécurité reste d'acuité, ça c'est d'une part. D'autre part, les FARDC ne sont pas renforcés, et que certaines zones ne sont dégarnies, la population va encore être exposée aux problèmes de braquage, pillage, tuerie et extorsion sur l'axe Pinga, Bessi, Kalembe, Kichanga. En même temps, si Pinga Centre reste sans effectifs importants de militaires pour sécuriser la zone, Pinga Centre va être disputé entre les cinq groupes armés qui sont dans les montagnes qui surplombent l'agglomération, et c'est notamment les MDC de Keka et MDC rénové de Guidon principalement, et les autres celles que cité précédemment.
Et quelles sont les solutions envisagées pour sécuriser cette zone en cas de retrait de la MONUSCO?
En fait, il a été mis en place un mécanisme de protection avec le système d'alerte précoce. Aussi, les comités locaux de protection chargés de saisir immédiatement les services des forces de sécurité, y compris la MONUSCO, en cas de problème. Mais le plus important, c'est qu'il faut un déploiement important des militaires et FARDC pour traquer tous ces groupes armés et au moins maintenir la calmie au niveau de Pinga Centre. Il faudrait aussi y déployer une police formée et équipée et que ces séances de sensibilisation soient menées sur terrain pour demander aux jeunes du milieu de quitter les groupes armés, déposer les armes et adhérer au processus DDR. C'est tout ce que proposent certains acteurs sur place.
Merci Christian pour tous ces détails.
Merci Kelly.
Merci Christian Mapendanou et Kelly Nkouti. Général-major Bernard Comins, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, comment expliquez-vous cette décision de la mission onusienne de fermer certaines de ses bases à travers la RDC?
Écoutez, je souhaite tout d'abord vous remercier pour l'occasion qui m'est donnée de pouvoir présenter peut-être de manière plus complète ou plus précise ce dont il s'agit. La MONUSCO, vous le savez, est installée, est présente et travaille avec nos partenaires des FARDC depuis de nombreuses années dans ce pays. La fermeture d'une base, la fermeture des bases n'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont déjà des dispositions qui ont été prises par le passé et je ne reviendrai pas, je dirais, dans les détails. Il est vrai que nous réfléchissons en permanence à la manière d'adapter notre dispositif en fonction soit de la menace, mais également en fonction de l'évolution des conditions de sécurité, de leur évolution positive. Nous avons effectivement ouvert une réflexion sur la possibilité de fermer plusieurs bases. Vous avez cité Pinga, Katalé et Munindi. C'est une réflexion qui est ouverte. La décision n'est pas prise pour autant, puisque avant de prendre une décision de cette nature, nous passons par un processus long, de plusieurs mois, et qui vise essentiellement à nous permettre, d'une part, de mettre en œuvre toutes les mesures d'environnement nécessaires pour permettre de passer le relais, de passer le témoin à ceux qui, demain, auront mieux en compte la responsabilité de la sécurité de telle ou telle zone. Quand je dis passer le témoin, je ne dis pas passer le témoin uniquement aux forces de sécurité avec lesquelles nous travaillons, uniquement pas avec la police, pas avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Certes, ce sont nos partenaires privilégiés. Et le témoin, c'est également avec tous les autres acteurs de l'État, tous les autres acteurs de la société locale, tous les autres acteurs représentant les autorités de l'État, je dirais, qui ont chacune leur rôle dans ce travail de préparation, d'accompagnement, pour permettre, à la fin de ce processus, de faire un bilan, et de dire la situation telle que nous la percevons maintenant, tout ce qui a été fait, nous permet de nous retirer et de passer le témoin. Mais nous retirer, cela ne veut pas dire quitter définitivement la zone, loin s'en faut. Cela veut dire que la MONUSCO continuera d'être présente, de patrouiller, de venir aussi régulièrement que nécessaire pour apporter son soutien aux forces armées congolaises et à ceux qui en feraient la demande. Je parle parce que je suis militaire, on pense plutôt à un soutien militaire, mais c'est le soutien au sens large que peuvent apporter toutes les agences, tous les bureaux et toutes les structures de l'Organisation des Nations Unies qui viennent en appui de projets de cette nature. Voilà ce que je pouvais dire s'agissant de ce processus et de ce que nous réfléchissons en ce moment.
Alors, Général-Major Bernard Comins, vous dites que la fermeture des bases n'est pas un fait nouveau. Peut-on évaluer les missions précédentes ou cette stratégie de fermeture de bases, s'est-elle avérée inefficace et pourquoi maintenant seulement?
Je vais simplement évoquer deux de fermeture ou de transmission de relais, je préfère ce terme, récent. J'évoquerai ce que nous avons fait à Cachéberé, qui est une base que nous avons quittée en septembre de l'année dernière, et ce que nous avons fait à Belémoussa, également en août de l'année dernière. Ces deux fermetures ont été précédées d'un long travail préparatoire avec l'ensemble des acteurs que je citais tout à l'heure. Et aujourd'hui, même si, certes, la situation peut toujours être meilleure, nous observons, hélas, qu'il reste toujours des acteurs violents autour de toutes ces régions, mais le niveau de violence a très certainement, enfin pas très certainement, mais on l'a observé, a très nettement décru. Et au-delà de cela, c'est surtout la prise en compte de ces zones par ceux qui désormais ont travaillé à nos côtés, ou plutôt que nous avons accompagné tout au long de ce processus. On observe avec beaucoup d'intérêt que les choses se sont bien mises en place, et je pense en particulier à Belémoussa, qui nous semble représenter un bon exemple de ce que nous devons continuer à faire et à développer dans le futur.
Alors, vous avez également dit que la décision de la transmission de relais, c'est le terme que vous préférez, n'est pas encore effective au niveau de la MONUSCO, mais dans les perspectives que vous avez, dans quelle partie du pays seront par exemple installées ces bases stratégiques pour permettre à la MONUSCO d'intervenir efficacement à travers le pays?
Oui, alors, vous évoquez un sujet qui est effectivement important et d'une nature peut-être un peu différente. Vous évoquez plus spécifiquement, me semble-t-il, le concept de bataillon de déploiement rapide, qui est un projet qui est porté aujourd'hui par la MONUSCO et qui a été soutenu à l'échelon de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Il s'agit pour nous de déployer dans l'avenir plutôt de pouvoir disposer dans l'avenir de 3 bataillons de déploiement rapide, l'un qui serait principalement dans le sud Kivu, l'un qui serait dans le nord Kivu et l'un qui serait dans l'Ituri. Je dois préciser que le bataillon de déploiement rapide du sud Kivu est déjà en place. Et pour vous donner un exemple très concret de ce que nous attendons de ce genre d'unité, eh bien, ça a été grâce à la présence de ce bataillon de déploiement rapide que nous avons pu, en toute fin d'année dernière ou en tout début de cette année, projeter très rapidement du volume d'une centaine d'hommes à Kananga, dans le Kasaï, où, comme vous le savez aujourd'hui, la situation est particulièrement délicate. C'est bien ce concept que nous allons mettre en œuvre dans l'avenir. Pour vous donner simplement un ordre d'idée, de quoi s'agit-il? Un bataillon, c'est 4 pions, sensiblement, d'environ 100 hommes chacun, 100 à 130 hommes chacun, 2 de ces pions étant installés sur des positions fixes, et donc là nous aurons, comme vous le souhaitez, des bases permanentes dont nous choisirons l'emplacement avec beaucoup d'attention bien évidemment, et 2 pions mobiles qui ont pour but de pouvoir être rapidement mis en œuvre ou déplacés là où le besoin se ferait sentir. C'est très concrètement ce nouveau mode d'action que nous voulons plus réactif, que nous développerons dans l'avenir au fur et à mesure de l'arrivée de ces différents bataillons.
Merci mon général, nous vous gardons encore pendant cette émission. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, comment vous avez reçu cette décision de la MONUSCO?
Oui, merci beaucoup. Je salue le général, je suis l'honorable général Monubo. J'ai bien suivi les arguments du général. J'ai un sentiment qui est à la fois positif et négatif, parce que je sais que la MONUSCO a fait un grand travail, ça fait 18 ans qu'elle est présente, elle a fait des exploits, elle a fait beaucoup d'appui, je suis témoin de tout ce qu'elle a fait, il y avait des questions brûlantes ici. Alors sur le plan positif, je note que la MONUSCO est en train de répondre peut-être tacitement à la demande du gouvernement qui souhaite la diminution progressive de ses effectifs. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau, je pense que la MONUSCO est en train, en même temps, de mettre le gouvernement devant ses responsabilités pour mesurer sa capacité de prise en charge des problèmes sécuritaires. sur un troisième niveau d'analyse, je pense que la MONUSCO interpelle le gouvernement pour dire, eh bien, attention, un jour nous partirons et il faudra que vous soyez à même de combler les vides par les policiers et les éléments des FARDC pour ne pas être distrait par la présence des forces des Nations Unies. C'est à ce titre que je salue évidemment cette alerte que la MONUSCO est en train de faire au niveau du gouvernement. Mais dans mon analyse qui n'est pas tout à fait positive sur le plan négatif, j'estime que la MONUSCO comme mission de maintien de la paix ne peut pas piéger le gouvernement pour dire « retirons nos forces et voyons comment le gouvernement va se comporter ». Parce que pour autant que la mission n'est pas partie définitivement, elle doit et elle a l'obligation de protéger les civils, parce que toutes les résolutions qui ont été votées par le Conseil de sécurité, eh bien, elles reprennent les termes phares, à savoir la protection des civils, etc. Alors lorsque le général dit « nous allons opérer ce qu'on appelle la transmission des relais » et laisser par exemple des populations dans des zones où elles vont se sentir ne pas être totalement sécurisées, alors que la résolution donne mandat de sécuriser ces populations-là aux côtés des FARDC, c'est là où effectivement, j'ai dit pour autant qu'elles ne soient pas encore parties, eh bien, ça sera une non-assistance à personne en danger. Voilà les deux types d'analyses que je peux mener à ce stade, mais je note quand même que c'est une interpellation de la partie gouvernementale, une alerte pour dire, attention, nous allons partir, ne nous considérez pas comme des missions à travers le monde qui font longtemps.
Monsieur le gouverneur, vous avez suivi le général-major Bernard Comines qui pense cette décision va permettre de rendre plus efficace et plus efficiente les interventions de la MONUSCO à travers le pays.
Non, je pense que nous avons déjà eu la brigade d'intervention qui avait été créée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. On l'a vu comment elle a opéré ici à travers lorsque nous faisions face aux éléments du M23. Je crois que c'est une expérience. Je ne vois pas en quoi on va encore créer d'autres bataillons de déploiement rapide tels que le général l'a dit ici. Un bataillon au nord Kivu, un bataillon au sud Kivu, un bataillon à Ituri. Ça sera une multiplicité de termes qui sont inventés au lieu de devoir donner une mission qui est déjà faite à la brigade d'intervention et la subdiviser en trois parties pour dire la brigade qui avait été créée à part d'une résolution qui est au nord Kivu doit donner un détachement au sud Kivu et donner un détachement à Ituri avec la mission qui avait été déjà définie et n'ont pas créé d'autres termes comme bataillon de déploiement rapide parce que la brigade d'intervention répond aux termes qui sont en train d'être avancés par le général aujourd'hui. Donc je crois que dire qu'on va ramener les troupes pour une efficacité, cela a déjà été pris comme décision. Parce que lorsqu'on a délocalisé les troupes de Kinshasa, de partout ailleurs, vers Goma, parce que c'est là où étaient concentrés les problèmes, j'estime que à ce niveau-là, on avait déjà pris la décision stratégique. On ne peut pas encore prendre une autre décision stratégique quand la première l'était déjà. Sinon, ce serait une stratégie dans la stratégie. Ça, c'est l'analyse à mon niveau.
Et vous avez évoqué le cas de non-assistance à personne en danger, monsieur le gouverneur. Je présume que vous faites également allusion à la réaction de la population qui se sentirait abandonnée.
Oui, je pense que la mission des Nations Unies est venue accompagner le gouvernement congolais sur son invitation. Et je crois que c'est tout à fait normal que la population se sente abandonné lorsque cette mission est encore présente ici. Imaginez-vous que dans une partie où la mission était, les forces armées étaient déployées dans une autre partie parce qu'elles savaient que là, les Nations Unies, à travers tel élément, y assurer la sécurité. Les éléments des Nations Unies ou de la MONUSCO se retirent alors que les forces armées sont dans un autre coin pour y assurer la sécurité. J'estime que si cela est fait, ce serait quand même très grave. Et c'est pourquoi la passation, ou ce qu'il a appelé la transmission des relais, doit être bien réfléchie pour qu'effectivement les populations qui se sentent aujourd'hui protégées par les éléments qui sont déployés par la MONUSCO,
se sente les mains protégées lorsque les relais sera bien négocié avec le gouvernement. C'est à ce niveau-là, effectivement, où se situe le problème. La négociation du relais entre le gouvernement et la MONUSCO, et non pas les pièges que la MONUSCO veut faire à la partie gouvernementale pour effectivement que les gens sentent que la MONUSCO était importante et ainsi décrocher que la population réclame cela alors que ça devait être négocié entre la MONUSCO et la partie gouvernementale.
Merci, Monsieur le Gouverneur, honorable Juvenal Munubo, député national et cadre de l'UNC, aussi rapporteur de la sous-commission Forces armées de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Vous l'avez suivi, Monsieur le Gouverneur Julien Paluku et le général-major Bernard Comines. Quelle est votre analyse à vous à ce niveau du débat?
Tout d'abord, je salue le gouverneur du Nord Kivu. Je salue également le général Comines. Je viens fraîchement du Nord Kivu. J'étais à Goma, j'étais à Walikale. J'ai eu le temps de m'entretenir avec les habitants, la population. Je suis passé par Kachebere. On a cité la localité de Kachebere où il y avait une base MONUSCO qui a été fermée. Je confirme donc d'abord l'inquiétude de la population. C'est une inquiétude réelle, confirmée par un élu du peuple, un député. Je viens de là. Et je comprends cette inquiétude. Pourquoi? Parce que l'autorité de l'État n'est pas rétablie au Nord Kivu. Il y a des contrées qui échappent encore à l'autorité de l'État. Il y a des études, même les plus récentes, comme celle du groupe d'études sur le Congo, qui dénombre près de 70 groupes armés encore actifs à l'est du Congo. Et il y a les reportages de certains de vos confrères, comme récemment Jeune Afrique, un envoyé spécial qui était au Nord Kivu et qui montre comment c'est fragile encore la situation sécuritaire là-bas. Même si le gouverneur, dans une interview, le gouverneur Paluku dit que la forte pluie est passée et qu'il resterait, il ne resterait que des gouttelettes, c'est-à-dire les groupes armés encore actifs, je ne suis pas très d'accord avec lui par rapport à ça, mais j'encourage tous les efforts qui vont dans le sens de la restauration de l'autorité de l'État. Il y a une possible résurgence du M23, des informations qui suscitent beaucoup d'inquiétude en ce moment en Nord Kivu. Nous sommes dans une année électorale, donc j'ai dit tout ça pour expliquer ce qui me pousse au fait à comprendre pourquoi la population est dans l'inquiétude. Et il faut aussi savoir que ces bases de la MONUSCO permettaient des atterrissages des hélicoptères de la MONUSCO et ça permettait aussi d'offrir l'aide logistique aux élections, mais également logistique également aux acteurs, par exemple, de la société civile, parce qu'il faut savoir que dans cette zone, il n'y a pas de bonnes routes. L'axe routier Goma Massissi Walikale est en très mauvais état. Et donc, quand on ferme des bases MONUSCO, il y a une probabilité, je parle d'une probabilité, qu'il n'y ait pas d'atterrissage facile des hélicoptères de la MONUSCO, parce qu'il n'y a pas une base sur place. C'est le cas de Oninga, par exemple, une localité située au nord de Walikale, Oninga et Fatua. Les kits d'enrôlement sont arrivés en retard. Et la raison, parce qu'il n'y a pas de base de la MONUSCO, et il y a eu des hésitations, et côté MONUSCO, et côté gouvernement. En tout cas, personne ne voulait atterrir là-bas, faire atterrir un hélicoptère pour amener les kits. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a été obligé de porter des kits
à Dodom.
Oui, il faut parcourir 5 jours avec tous les risques possibles parce que la zone est infestée de groupes armés. Et donc, pour toutes ces raisons, la population a
raison de s'inquiéter. Alors, vous avez suivi le gouverneur Julien Paluku soutenir que la MONUSCO serait en train de piéger le gouvernement congolais.
Moi, je ne maîtrise pas toutes les règles opérationnelles de la MONUSCO. Je ne suis pas militaire. Je suis député national, acteur politique, membre de la commission de défense et sécurité. Je préfère considérer que la MONUSCO ne serait pas en train de piéger le gouvernement parce que moi, j'estime que la communauté internationale au Congo a plutôt bonne foi dans l'accompagnement de la RDC. On a connu des moments très difficiles et la communauté internationale nous a accompagnés. Et maintenant, on est en train de négocier un virage important de l'histoire de notre pays, l'alternance démocratique à la fin de l'année. Et moi, je décèle quand même la bonne foi. Il y a une bonne foi qui ne trompe pas côté communauté internationale. Et donc, je ne suis pas en train d'émettre l'hypothèse qu'il s'agirait d'un piège tendu au gouvernement par la communauté internationale. Donc, je ne suis pas dans cette logique comme le développe à l'instant les gouverneurs Paluku. Et donc, Je relaye ce qui m'a été dit à Kachébéré ou ailleurs. La population veut la société civile. Ils veulent à ce que ces bases soient réouvertes. Et je l'ai dit à cette occasion devant le représentant de la MONUSCO et devant le représentant du gouvernement sur place, le gouverneur du Nord Kivu. Et la raison, c'est que d'abord, il faut dire que si la MONUSCO est ici au Congo, en plus de l'armée, en plus de la police, en plus des forces de sécurité, ça veut dire qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et ça, c'est depuis 1999. Mais la question importante à poser dans cette émission, mais qu'est-ce qui a été fait pour qu'on quitte d'une situation exceptionnelle qui a duré 18 ans, comme l'a dit monsieur le gouverneur, pour qu'on revienne à la normale.
Alors, comment revenir à la normale? Une autre question, honorable, est-ce qu'il ne serait pas temps pour la MONUSCO de commencer à passer le témoin, comme a dit le général-major Tomins?
Lorsque vous lisez les résolutions des Nations Unies sur le mandat de la MONUSCO, c'est un peu répétitif. Il est dit souvent que la reconfiguration ou les reconfigurations futures dépendront de l'évolution de la situation sur terrain. Je crois que le général Comins pourra confirmer ce que j'ai dit. Et ça se discute. Il y a le gouvernement congolais, il y a la communauté internationale qui participe, il y a des pays amis qui initient des projets de résolution comme la France et d'autres. Et donc, ça se discute et c'est ainsi que c'est formulé dans les résolutions. Et ça veut donc dire que si la MONUSCO, elle est là avec l'ensemble de ses effectifs, d'ailleurs, on demande l'augmentation des effectifs de la MONUSCO pour les Kasaï, ce qui se passe avec
Kamuina-Nsapu.
Ça se discute entre partenaires et je crois que les évaluations ne permettent pas à l'instant, d'une manière objective, de dire que la MONUSCO doit réduire ses effectifs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez travaillé pour préparer cette réduction ou peut-être ce départ de la MONUSCO. On n'a pas assez travaillé, ça veut dire quoi ? On n'a pas fait de progrès dans la réforme du secteur de sécurité. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas restauré l'autorité de l'État dans l'ensemble
du pays. On n'a pas encore fait des projections sérieuses. Merci, honorable. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Général-major Bernard Comins, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la France.
Moïse Malalone, à partir de France. La fermeture de certaines bases de la MONUSCO en RDC, c'est souhaitable. Mais une question à se poser est de savoir si la MONUSCO décide de procéder ainsi à la demande du gouvernement parce qu'elle a atteint son objectif qui est le rétablissement de la paix en RDC. À mon humble avis, j'ose croire qu'il n'est pas encore temps que la MONUSCO procède ainsi, surtout dans la province du Nord Kivu qui présente déjà des anomalies sécuritaires et dont on ignore les tenants et les aboutissants.
Mon général, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
En fait, le sujet évoqué par votre auditeur reprend un peu un certain nombre de points qui ont été évoqués soit par monsieur le gouverneur, soit par monsieur le député. En toute chose, nous n'agissons pas seuls. Nous agissons en étroite collaboration avec les autorités de ce pays. Et les fermetures de base, vous les voyez comme une fermeture avec un grand vide. Malheureusement, je comprends à travers vos propos, un vide sécuritaire. Ce ne doit pas être le cas. Tout ce que nous mettons en œuvre, tout ce que nous faisons avant de fermer une base, vise précisément à ne pas créer de vide sécuritaire. La responsabilité de la sécurité incombe en premier lieu aux forces de sécurité de ce pays. Et c'est d'abord avec elles que nous travaillons. Et ensuite, comme je le disais, nous veillons à rester présents, nous veillons à continuer à avoir une présence peut-être plus aléatoire sur les zones que nous avons rétrocédées, mais en aucune manière il s'agit pour nous de laisser se créer un vide. Alors après, il est vrai que, quelle est la stratégie à long terme? La stratégie à long terme, c'est de dire un jour, eh bien écoutez, travail accompli, le niveau de sécurité est atteint, eh bien la MONUSCO remet maintenant, remet son mandat, si je peux dire, puisque mission accomplie. C'est un travail de très longue haleine. C'est un travail qui reste encore à parachever, c'est vrai. Et cette stratégie de sortie, si je peux dire, n'est pas une chose qui est faite par la MONUSCO dans ses bureaux. C'est vraiment un travail que nous menons en échange régulier avec les autorités de ce pays, à travers un dialogue stratégique, de manière à pouvoir évaluer point par point quels sont les niveaux de progrès, quels sont les endroits où il y a encore des choses à faire ensemble, pour pouvoir ensuite je dirais, transmettre le témoin. Alors, si vous me permettez juste un dernier mot.
Je vous en prie.
Dernier mot. Je pense que, à évoquer
les forces de sécurité, notre présence, nos actions, etc. Certes, c'est nécessaire. C'est nécessaire et ça le restera. Ceci étant, c'est d'abord, je dirais, faire face à des conséquences. Le fait d'être déployé et le fait d'être présent dans toutes ces zones. Je pense qu'il faut aussi que nous travaillions ensemble, et c'est fait, et c'est fait. Et il faut vraiment nous arc-bouter sur ce travail de rechercher à nous attaquer aux causes profondes qui font qu'aujourd'hui, voilà, dans tel ou tel secteur, il y a des difficultés parce qu'il y a des groupes armés, parce qu'il y a
des
populations qui ne parviennent pas à s'entendre.
Alors, mon général, vous dites que la fermeture de certaines des bases de la MONUSCO ne signifie pas un vide sécuritaire. Quelles dispositions pratiques et concrètes sont prises ici que vous pouvez détailler, par exemple, pour rassurer toutes ces populations qui pensent à ce vide sécuritaire?
C'est ce que nous faisons au quotidien, à savoir que nous continuerons à être présents, à assurer des patrouilles, à assurer des opérations conjointes avec les forces armées de ce pays, à préparer des opérations pour neutraliser les groupes armés, à continuer à répondre lorsque les systèmes d'alerte des communautés locales nous feront savoir qu'il y a une menace. Nous répondrons seuls, si nous sommes seuls, ou nous répondrons avec nos partenaires militaires des forces armées congolaises si nous sommes à proximité, comme nous le faisons très souvent. Donc, on évoquait tout à l'heure le fait qu'ayant piqué des bases, les zones de posée hélicoptères ne seraient pas disponibles. Les zones de posée seront disponibles aussi longtemps qu'elles pourront être entretenues par ceux qui vivent dans ces régions et qui trouvent un intérêt à ce qu'il y ait une zone de posée. Et nos partenaires des forces armées congolaises savent quelles dispositions prendre pour sécuriser une zone pour nous permettre de nous y poser. Nous l'avons fait encore très récemment.
Merci.
Voilà, en aucune manière un vide.
Merci, mon général. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Gilbert Brandi Vudugo Mituma, à partir de Bukavu au sud Kivu. Je dis, la MONUSCO n'est pas venue pour l'éternité en RDC. C'est pourquoi moi je soutiens son retrait effectif sur toute l'étendue du pays. Car malgré sa présence, les massacres de la population ne cessent de se répéter dans tous les coins du pays. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est pour vouloir dire que c'est l'Éternel qui garde son peuple, le gouvernement, qui avait toutes les prérogatives de garder le peuple et ses biens, mais qui a failli à sa mission. La MONUSCO ne peut rien faire à sa place.
Monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous lui répondez?
Oui, je note d'abord en passant que notre auditeur c'est un chrétien, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais je note également qu'il est désespéré par la situation du pays qui s'enlise. Je voudrais également rappeler à notre auditeur ainsi qu'à toute l'opinion qu'effectivement la MONUSCO devra se retirer. Et le général vient de le dire. Qu'à un moment donné, la mission sera accomplie et la FARDC et le gouvernement vont prendre la relève. Parce que je l'ai bien dit, l'alerte que la MONUSCO vient de faire ou est en train de faire en retirant ses forces dans certaines zones n'est pas une alerte inutile pour nous, partis gouvernementaux. Parce que si les gens lisent beaucoup les missions de maintien de la paix dans le monde, tout le monde doit savoir qu'il y a une ancienne mission de maintien de la paix en Chypre. Cette mission est là depuis 1964. Ça fait 63 ans que cette mission est en Chypre. Elle avait été déployée pour prévenir les combats ou les tensions entre les communautés chypriotes grecques et les communautés chypriotes turques. Mais ça fait 53 ans que cette mission est présente là-bas et elle a déjà consommé un budget de 58 milliards de dollars. Imaginez-vous que cela se passe en République démocratique du Congo, que nous fassions 53 ans avec la mission des Nations Unies, alors qu'elle a été présente ici depuis 1999, c'est-à-dire elle va rester ici jusqu'à 2052. Et si elle consomme le même budget de 58 milliards de dollars, vous imaginez, c'est l'équivalent de 58 000 kilomètres qui devaient être faits en République démocratique du Congo. Or, nous avons un réseau routier de 53 000 km. Donc, c'est l'ensemble de tous les réseaux routiers asphaltés en République démocratique du Congo.
Même sur le gouverneur.
En même temps, sur le plan de l'analyse, c'est important que la mission nous alerte pour dire, attention, vous devez vous prendre en charge, vous devez former l'armée, vous devez former la police, et ce qui est en train d'être fait à la base militaire de Kamina, à la base militaire de Kitona, pour que nous soyons responsables de notre propre sécurité, pour que les RLS se fassent dans la paix, et que la mission que les Nations Unies ont pu faire à la République démocratique du Congo soit une mission noble, que nous nous rappelions qu'il y avait une mission au Congo qui avait bien travaillé et nous a laissé un pays où nous pourrions dire la mission a été de passage en République démocratique du Congo.
Mais, monsieur le gouverneur, en évoquant le fait que la MONUSCO prend ses décisions avec son partenaire, le gouvernement congolais, ne serez-vous pas en train de craindre que la fermeture de certaines de ces bases ne puisse affaiblir les FARDC qui, selon certains analystes, ne sont pas suffisamment équipés, n'ont pas suffisamment d'éléments sur le plan logistique?
Oui, j'ai dit effectivement, c'est là l'interpellation. Je ne suis pas en train de donner ici un point de vue contraire à mon gouvernement. Je ne suis pas en train ici de dire que la MONUSCO va affaiblir les forces armées. Au contraire, la MONUSCO interpelle le gouvernement pour dire, attention, vous avez un pays qui a 2 445 000 km², et il ne faudra plus avoir une armée de 100 000 hommes, parce que les pays voisins que nous avons ont des armées de 50 000 hommes, alors qu'ils sont 80 fois plus petits que la République démocratique du Congo. Si nous devons faire une des projections, celui qui est 80 fois plus petit que la RDC a 50 000 hommes, chacun peut faire ses calculs, même si les technologies ont été développées. Donc je crois que la MONUSCO, pour autant qu'elle soit encore présente ici, les retraits devra être négocié avec la partie gouvernementale, mais je sais aussi que le chef d'état-major qui siège avec le commandant force de la MONUSCO, le commissaire général de la police qui siège avec son patron de la police, devront effectivement négocier la manière dont ils doivent, de notre côté parti gouvernemental, combler les vides qui sont en train d'être laissés par la MONUSCO, pour que des questions sécuritaires puissent être gérées de manière efficiente et que la population soit prise en compte dans le futur.
Merci, monsieur le gouverneur. Honorable Juvenal Munubo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province de l'Ituri.
Moi, c'est Aloubango Diédoné, JP de Mahagi, dans la province de l'Ituri. La MONUSCO, avant de rendre une décision officielle, a toujours consulté les troupes sur terrain, et ce n'est pas la première fois qu'elle agisse ainsi. Vu l'urgence opérationnelle, que la population se calme et qu'elle ait cette même confiance à notre FRDC, rien ne sera perdu, car elle est pour un mandat et finira par quitter la RDC.
Honorable Munubo.
Je crois que la population elle est disposée à offrir sa confiance au FRDC. Et c'est que la population, la grande demande, moi j'amène la grande demande, je viens de vacances parlementaires, la population de Walikale, du Nord Kivu, de l'Est, du Congo, demande à l'État le rétablissement de l'autorité de l'État. C'est que la population demande, c'est quoi? C'est la restauration de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de sécurité, le DDR, etc.
Qui, à votre avis, ne semble pas beaucoup avancer.
Oui, et vous constaterez que ça n'avance pas. Donc, il suffit pas seulement d'avoir confiance pour avoir confiance au FRDC ou au gouvernement. Il faut que le gouvernement mérite davantage cette confiance. Et la façon de le mériter, c'est de faire quoi? C'est d'agir et dans le sens de rencontrer les désidératas de la population. Pourquoi il se développe de plus en plus des mouvements d'autodéfense? Il y a des situations, je n'encourage pas ça, mais ça arrive par la force des choses. Quand on trouve des situations où l'armée n'existe pas, n'est pas présente, où elle a une présence insuffisante, la police n'existe pas, la MONUSCO n'existe pas, c'est arrivé en Toto. Plusieurs fois, même sur les antennes de Radio Okapi, j'ai eu à parler de la localité d'Entoto, dans le groupement de Walo à Uroba. Plusieurs mois, cette localité était désertée, et par l'armée congolaise, et par la police, et par la MONUSCO. Il n'y a pas une base, il y avait une base... en Toto. Des situations comme ça, c'est ce que les habitants de Pinga craignent. Ce n'est pas veut dire qu'ils n'ont pas confiance au gouvernement. Ils ont confiance au gouvernement, mais ils veulent bien que le gouvernement mérite davantage cette confiance-là. Et ils ne comprennent pas comment la MONUSCO qui est venue en appui au gouvernement pourrait du coup décider de défermer une base sur terrain. Et ça soulève des inquiétudes, et surtout qu'on est dans une année électorale. Et la question qui revient souvent, c'est de savoir quel est le plan du gouvernement congolais pour les prochains mois, avec qu'on focus les élections à la fin de l'année. Et quel est le plan de la MONUSCO pour les prochains mois? Le général-major Comis a essayé de débrosser ce plan. Mais moi, je crois que la réouverture des bases...
Il affirme que la fermeture des bases n'est pas égale à un vide sécuritaire.
Mais il y a eu des cas où des bases ont été fermées et c'est le vide qui a été constaté. Je vous parle d'un total. C'est pas que j'invente des choses. Le général Comis pourrait vérifier ça. Et nous craignons des situations comme ça, où l'État congolais n'est pas présent, la communauté internationale s'y absente. Mais qu'est-ce qui arrive? Les populations sont laissées pour compte, finalement. Et moi, en tant que député, on est des partenaires, c'est dans l'esprit du partenariat que nous participons aussi dans cette émission. Eh bien, il faut que chacun fasse son travail, que ces dialogues stratégiques continuent, et que ces dialogues stratégiques soient francs. Il faut que tout se passe dans la franchise, la transparence. Et donc, si tout se passe dans la transparence, dans la franchise, je crois que ça doit aller. Naturellement, ça doit aller. Et on doit avoir la sécurité.
Et donc, pour vous, cette stratégie opérationnelle de la MONUSCO, en principe, ne devrait pas susciter des inquiétudes.
Oui, parce que les gouvernements devaient en être au courant. Les gouvernements devaient en être au courant et ça devait être fonction de l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain. Et donc, ça ne devrait même pas faire l'objet de débats.
Donc, ça ne semble pas le cas sur terrain,
ça montre,
selon vous.
L'indicateur, c'est quoi? Il se dégage de cette émission qu'il y a encore des efforts à faire dans la bonne collaboration entre le gouvernement et la MONUSCO.
Et en guise de conclusion, honorable, vous êtes autorité budgétaire, vous êtes à l'Assemblée nationale. Quel conseil donnerez-vous aux uns et aux autres, à la MONUSCO, au gouvernement congolais qui sont partenaires?
Au gouvernement d'abord, parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Nous commençons la session de mars. On doit avoir le budget de l'État et pas toujours des crédits provisoires. Il faut un budget de l'État. Et dans le budget, il faut qu'un financement important soit dégagé, même si on a des contraintes, tout ce que le gouvernement évoque, qu'il n'y a pas l'argent. Je crois qu'il faut travailler, il y a toujours moyen d'avoir de l'argent pour financer le plan d'action quinquennale de la réforme de la police. Il existe ce plan, mais qui souffre, il n'y a pas d'argent pour financer. Ils font un plan d'action, un plan, une loi de programmation militaire de la réforme de l'armée. Et il faut aussi que le gouvernement arrête finalement un plan d'urgence pour le retour de la paix à l'Est. Parce que si nous évoluons dans cette situation et qu'on arrive en juin, en juillet, avec ces multitudes de groupes armés, l'insécurité, moi je crains que ça constitue une hypothèque par rapport aux élections.
Merci. Général-major Bernard Comines, vous allez également conclure. Mais avant, il y a Jean-Pierre Changa de Kinshasa qui vous pose la question de savoir qu'est devenue la brigade d'intervention de la MONUSCO qui a été tant vantée ici au pays.
La brigade d'intervention de la MONUSCO est toujours bien présente, elle est actuellement dans l'Ituri. Elle continue à mener des opérations militaires, conformément au mandat qui lui a été donné, et il n'est absolument pas question aujourd'hui de remettre en cause son existence et les missions qu'elle exécute.
Alors, en guise de conclusion, mon général, par rapport à toutes ces populations qui continuent à avoir des craintes sur la fermeture de ces bases, qu'est-ce que vous leur dites, ainsi qu'à votre partenaire, le gouvernement?
Écoutez, s'agissant des populations et de la nécessité ou du besoin d'être rassurées qu'elles ont exprimé à travers les quelques questions qui ont été posées, je pense que j'ai déjà expliqué la manière dont effectivement la MONUSCO continuera d'œuvrer et que de toute façon les fermetures seront toujours accompagnées d'un long processus préalable de manière à s'assurer que les choses sont vraiment mises en place pour permettre de passer ce relais. Le gouvernement, je ne sais pas si je suis autorisé à prodiguer des conseils aux hautes autorités de ce pays, mais je retiens quand même avec beaucoup d'intérêt l'intervention de monsieur le député. C'est vrai que la sécurité passe par des mesures financières qui sont certainement une exigence pour
Merci.
Ce pays. Et c'est également le prix à payer.
Merci. Merci, mon général. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, juste un mot pour conclure, en guise de conclusion, je me répète.
Oui, je salue l'interpellation de la MONUSCO sur les responsabilités qui sont les nôtres comme gouvernement, parce que nous devons reprendre les flambeaux. Deux, je n'apprécie pas que les retraits se fassent par mort subite. La mort subite, j'emprunte ici le terme qui avait été utilisé en football et aussitôt il a été retiré parce qu'il avait produit des effets néfastes.
Merci Monsieur le Gouverneur, merci Général Major Bernard Comins, merci à vous Honorable Juvenal Mounoubou. Mesdames et Messieurs, cette émission est terminée. Bonne suite et programme sur la radio de la paix. Au revoir.